y a des jeunes qui veulent tout simplement pas parler français, puis c'est pas parce qu'ils ont pas essayé, c'est pas parce que...
J'ai jamais compris, I guess, pourquoi les gens veulent tellement, comme, purifier la langue.
Si on utilise ces anglicismes-là, c'est pas parce qu'on est inférieur.
Bienvenue à Bilinguiste. Ici Marie Villeneuve. Aujourd'hui, on va démystifier un tout petit peu l'influence des anglicismes sur notre belle langue française. Et vous allez voir, au fond, la science a son mot à dire là-dedans aussi. Bonjour, Suzanne Robillard.
Bonjour, Marie.
On a beaucoup, beaucoup de choses à voir aujourd'hui. Il y a des choses qui vont faire réagir beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde là-dedans. Et on commence ça avec Yann.
Les gens, peut-être, s'attendent pas nécessairement à attendre du... entre parenthèses, du vrai français ou comme du bon français, comme eux vont dire, dans des endroits comme la CB, s'ils ne sont pas au courant. Et je pense que ce ne soit pas nécessairement négatif, mais ils ont déjà cette idée préconçue des gens, que ce soit à l'extérieur du Québec ou de la France ou de n'importe quelle région qui viennent, où est-ce que le français est plus majoritaire. Ils vont avoir cette certaine perception qui... Puis nous, c'est plus tough. Puis oui, certainement, j'ai un certain accent. Comme pour moi, j'entends pas trop, mais moi, j'ai passé plus de temps avec des personnes françaises qui le remarquent. C'est pas une mauvaise chose, mais c'est juste la réalité de ma langue que je peux pas changer. Sinon, mes anglicismes, quand j'étais avec ce groupe de personnes d'un peu partout, des francophones de vraiment d'un peu partout, c'est ça les réalités. Des gens d'ACB, on utilisait plus d'anglicismes que les gens de la France, par exemple. Et on a commencé à jouer un petit jeu, le jeu des pitch notes, où est-ce que pendant le temps d'une journée, à chacun notre tour, à chaque fois qu'on disait un anglicisme, si une autre personne les callait dessus, ils pouvaient donner une pitch note à la personne. Pas méchamment, puis c'est juste comme, on est tous d'accord de le faire, puis c'est un peu weird de penser comme ça. Et moi, je l'ai fait juste parce que comme je m'en callais la manière que je parle, c'était pas pour me dire que je parlais d'une mauvaise manière, mais ça m'a vraiment fait réaliser à quel montant que j'utilise des anglicismes. Que ce soit juste des petits mots ici et là, puis c'est... J'ai pas perçu de manière négative, ça m'a pas affecté de ce côté-là, mais c'était vraiment intéressant, juste comme exercice personnel, de comme je savais que j'utilisais des anglicismes, mais ça faisait longtemps que j'avais pas pensé exactement à quel mot que j'utilisais en tout temps.
Hey, Suzanne, il y a beaucoup de choses là-dedans. D'abord, il nous parle de l'idée préconçue du français en Colombie-Britannique. Les gens entendent l'accent d'abord, souvent. Et puis après, ce qu'il dit, c'est qu'il nous parle de la réalité d'utiliser plus d'anglicismes, de les entendre, de les voir, de les compter même, le nombre. Et il dit que la réalisation de ça était super importante pour lui. Et puis moi, ce qui m'a frappé aussi, il dit on utilise beaucoup plus d'anglicismes que les Français, par exemple. Là, je connais Suzanne et je sais, Suzanne, que t'as des choses à dire à ce sujet-là. Par quoi on commence?
Bien, la première chose que j'aimerais clarifier, c'est que pour un linguiste, le terme anglicisme, c'est pas un terme technique. Fait que c'est pas un terme qu'on utilise en linguistique pour décrire les structures que Yann décrit. Fait que là, pour un linguiste, on peut distinguer trois différentes sortes d'incorporation d'une autre langue dans ce qu'on appelle la langue receveuse. Fait qu'il y a une langue qui reçoit et puis il y a une langue qui donne. Et dans ce cas-là, à titre d'exemple, on peut utiliser le français et l'anglais. Fait que le français, ça serait la langue receveuse et l'anglais, ça serait la langue donneuse dans cet exemple-là. Fait qu'on a trois types. On a l'insertion de mots de l'anglais dans un énoncé autrement français. Hein? Fait que ça, c'est l'emprunt lexical. Fait que je peux dire, veux-tu aller chercher un beer après le travail? Ça, c'est un emprunt lexical. OK? Là, on a une autre sorte. Et puis, c'est quand on mélange deux phrases. Quand on mélange peut-être une phrase en français avec une clause subordonnée, si c'est trop grammatical, tu me l'as dit, mais comme on mélange deux parties d'une phrase français-anglais. La troisième, c'est ce qui est souvent repéré comme étant le plus dangereux, si on veut dire ça. C'est
dangereux. Quand tu dis dangereux, je vois des gros guillemets là, autour du mot.
Oui, des gros guillemets. Parce qu'on va souvent dire, l'emprunt lexical, dire email au lieu de courriel, c'est peut-être pas si endommageant que ça finalement, mais l'anglicisme syntaxique, on va appeler ça l'anglicisme syntaxique souvent. Ça, c'est ça qui va endommager la langue. Et puis les gens qui sont inquiets de l'anglicisme syntaxique, c'est parce qu'ils craignent que le locuteur pense en anglais quand il utilise une phrase comme, mettons, au lieu de dire « il fait 30 degrés dehors », dire c'est 30 degrés dehors.
Oui.
Ça, ça serait le vrai danger. Hein? Oui. Ça serait le. Ouais.
Puis là, est-ce qu'il y a des guillemets autour de vrai aussi? Parce que,
absolument.
Oui, c'est ça. Parce qu'au oui. fond, c'est pas dangereux, Suzanne, si je comprends bien.
Ben c'est ça, c'est ça. Et je veux dire, c'est, je veux vraiment aussi mettre l'emphase sur le fait que ce qu'on va discuter lors de cet épisode, c'est pas les opinions à Suzanne Robillard. Hein?
Non.
La science qui décrit un peu les phénomènes qu'on voit
oui.
dans la parole des gens bilingues. Et donc, quand on a cette approche qui vise de décrire quelque chose, c'est l'approche scientifique.
Mm-hmm.
Là, on est plus porté à observer des différences dans la langue. Et on peut voir aussi, grâce à ces études descriptives, ces études scientifiques, on peut voir à quel point ça ne change pas la structure du français. Ce n'est pas quelque chose qui effrite mm-hmm. la langue du mm-hmm. tout.
Mais on peut comprendre pourquoi ça fait réagir tant que ça, par exemple, je pense.
Oui, et c'est, on en a parlé déjà. Je pense qu'on craint l'influence de l'anglais parce qu'on tient vraiment notre langue française à cœur. Tu sais, c'est quelque chose qui est important pour nous et puis on veut s'assurer d'éviter de l'endommager ou on veut s'assurer sa pérennité et sa vitalité, surtout là où elle pourrait peut-être être moins en usage courant pour des raisons démographiques ou géolinguistiques.
Ouais.
Mais c'est ça, on va en parler, je pense, on va déballer ça mm-hmm. au cours de l'épisode, cette idée qu'il existe trois phénomènes distincts et qu'ils ont des réactions, ils provoquent des réactions différentes chez les gens.
Ben oui.
Mais en fin de compte, quand on étudie ces phénomènes-là, on peut observer à quel point ils n'endommagent pas ou ils ne changent même pas le français.
Oui. Je riais parce que je pense que ça va être un épisode chaud.
J'ai
l'impression qu'on a beaucoup, beaucoup de points
chaud.
Sur la planche. Là, on va écouter Eric.
Une nuance qui serait importante à faire avant de répondre à la question, c'est qu'on peut analyser la langue selon deux grandes perspectives. On peut analyser la langue et la prendre dans une perspective prescriptive ou dans une optique plus descriptive. Donc, qu'est-ce que ça veut dire exactement ça? Plus ou moins, en gros, ce que ça veut dire, c'est une approche prescriptive cherche à dire aux gens comment on devrait utiliser une langue. Donc, par exemple, ce qu'on verra écrit dans les dictionnaires ou dans des ouvrages de référence, dans les grammaires, dans les bécherelles, tout ça. Là, c'est on est en train de prendre une variété de français qu'on cherche à figer pour dire, OK, ça, c'est le standard que tout le monde va utiliser. Si vous voulez être compris, c'est ça la variété qu'il faut utiliser. Et que tout autre qui tombe à l'extérieur de ce cadre-là, on ne va pas nécessairement dire que c'est faux, mais on va utiliser des mots comme dire, c'est des régionalismes, c'est des acadianismes, c'est des canadianismes, c'est des amérindianismes, etc., etc. Donc, on va toujours chercher un peu à privilégier une norme au-dessus d'une panoplie de différentes variétés. Donc, ça, c'est l'approche plus prescriptive. Donc, c'est un peu comme une prescription là, qu'on fait. Tandis qu'une approche descriptive, qui est une approche qu'on voit beaucoup plus chez des linguistes, c'est une étude scientifique de la langue où on cherche à non pas dire aux gens comment ils devraient s'exprimer, mais de dire aux gens comment ils s'expriment.
Donc, ça, Suzanne, là, prescriptive ou descriptive, quand on n'est pas linguiste puis qu'on ne connaît pas ça, cette façon-là de voir les choses, ça nous semble intéressant. Donc, on fait ça en linguistique.
Oui, avec toutes les sciences, on prend l'approche descriptive. Fait qu'un, un biologiste ne cherche pas à dire, au poisson qu'il devrait être bleu et non vert. Non. On décrit, voici le comportement linguistique des gens.
Ouais, ouais, ouais.
Puis Eric Dao, qui vient de nous partager ses pensées, il est expert dans l'espèce de bagarre interne, je pense qu'on peut avoir entre la prescription et la description, parce que c'est un expert en traduction. Fait que lui, il a fait son mm-hmm. parcours académique en jouant dans ces deux camps-là. Est-ce que la traduction devrait suivre la norme prescriptive et donc dire, voici le mot juste pour être compris, le standard qu'il faut absolument suivre, ou bien est-ce qu'on essaie de prendre l'approche plus descriptive et donc d'éviter de catégoriser toute la belle richesse qu'on mm-hmm. a dans les Français du monde, éviter de les catégoriser comme vis-à-vis une norme seulement.
Oui, oui. Et bon, et pas mettre de barrière, en fait, là, si je comprends bien.
Oui, exact. Ouais,
ce serait inutile. On va toujours écouter Éric. Il y a des choses à nous dire concernant les différents types d'anglicisme.
C'est si on regarde, il y a différents types d'anglicisme qui existent aussi. Donc, ça peut être aussi banal que, mettons, des emprunts qui sont des mots d'origine autre que le français qui sont rendus complètement intégrés dans la langue. Un parfait exemple d'un anglicisme qui est rendu un emprunt, c'est un bar. Donc, ça vient du anglais bar. Et personne, même si ça vient de l'anglais, il n'y a personne qui va dire, OK, ben ça, c'est une faute de français si tu le mets dans ta rédaction, par exemple. Mais là, il y a d'autres catégories. Une première catégorie qu'on pourrait discuter, mis à part les emprunts, ce sera les faux amis. Donc, les faux amis, c'est des anglicismes qui viennent du fait qu'il y a un mot très similaire ou exactement pareil qui existe en français, mais qui n'a pas tout à fait le même sens. Si un mot est utilisé d'une certaine façon et là que ça commence à devenir une utilisation de plus en plus populaire et tout ça, ben là, peut-être éventuellement, ça va passer dans les dictionnaires et passer dans l'usage.
Hey, bon, bar, je pense que Suzanne, on comprend tous là, l'exemple de bar, puis effectivement, on n'y pense même plus que bar, c'est un bar, et que c'est un bar aussi.
Ben non,
maintenant. Mais la question des faux amis, comme il dit, moi, j'aimerais ça en savoir davantage là-dessus.
Ben, les faux amis, ce qu'il décrit, c'est cette espèce de différence entre deux mots qui partagent peut-être des racines linguistiques, qui proviennent peut-être du latin, du même mot latin, mettons. Mais qui ont évolué des sens différents en français et en anglais. Fait que c'est des mots qui se ressemblent,
ouais,
mais qui n'ont pas finalement le même sens. Donc, pour quelqu'un qui est unilingue francophone, entendre un faux ami calqué sur l'anglais, ça va peut-être mener à un manque de compréhension entre ces deux personnes-là. Si le locuteur unilingue ne comprend pas « Ah, en anglais, ça veut dire ça », et dans le contexte de sa phrase, je comprends qu'il a choisi le sens anglais. Fait que je ne sais pas à quel point les faux amis sont fréquents, dans le sens où j'ai du mal à en choisir un.
Je trouver un exemple, oui. Ouais.
C'est ça, j'ai du mal à en repérer un, même dans ma langue, je suis certaine que j'en fais, mais c'est juste parce que j'ai l'anglais dans la tête ainsi que le français, ouais. Et donc parfois on peut choisir le sens de l'un ou de l'autre. L'affaire avec les faux amis que je trouve vraiment dommage, c'est que souvent, moi je suis quelqu'un qui aime apprendre, hein, oui. C'est évident,
oui.
Et puis quand je parle le français avec un locuteur unilingue français ou peut-être moins bilingue, mettons, que moi, je vais souvent demander, est-ce que j'ai choisi le mot qui fait du sens pour toi? Comme, est-ce que ça fait du sens, le mot que j'ai choisi? Ou qu'est-ce que ça veut dire, ce mot-là? Je ne le connais pas, c'est pas dans mon lexique. Fait que pour moi, les faux amis, je trouve ça vraiment difficile parce que souvent, je crains d'utiliser un faux ami juste pour éviter le manque de compréhension. Tu sais, c'est quelque chose auquel je me soucie. Mais là, finalement, je me fais toutes sortes de peine parce que il y a beaucoup de mots qui se ressemblent en français et en anglais qui ont le même sens. Fait que le mot similaire, par exemple, c'est un bon exemple pour moi. Parce que similaire en français et similar en anglais, on s'entend que ça veut dire à peu près la même chose. Ouais. Il y a certainement des nuances, tu sais, qui sont le champ d'étude des traducteurs, etc. Je ne suis pas traductrice, je suis juste locuteur. Hein? Je suis juste locutrice de français quotidien. Mais fait que si je veux utiliser le mot « similaire », je vais peut-être craindre, est-ce que c'est un faux ami? Est-ce que je devrais plutôt dire « semblable » Parce que je sais que « semblable
»,
c'est un mot français qui ne ressemble vraiment pas au mot anglais. Fait que peut-être que je vais m'arrêter en train de penser à ma phrase. Là, je vais m'arrêter, je vais dire « oh, il faut que je dise ce mot-là ». Et puis, ce genre de comportement linguistique est très... emboîtant, tu sais, ça emboîte un peu ma façon de parler fluidement. Il faut que je m'arrête pour constamment réfléchir à ça
donc,
en fonction de mes insécurités.
Oui, exactement. Et puis, ça peut être utilisé accidentellement dans un contexte d'adaptation dans une conversation où justement on veut s'adapter à qui, au niveau de français, au niveau de langue, ouais. la personne à qui on parle. Ben oui, puis on le fait tous, ça, ici, là. Et souvent, on s'adapte, évidemment. Surtout quand les gens font l'effort de parler français, on veut juste les aider, faire en sorte qu'ils nous comprennent, évidemment. Là, on va se plonger dans ce que Nathalie a à nous dire. Elle va nous parler des locuteurs, si je comprends bien, Suzanne. Et on s'est dit juste avant l'enregistrement que je ne sais pas pourquoi, et je suis très curieuse de le savoir, mais qu'on aurait beaucoup de choses à se dire à propos de ce qu'a à nous dire Nathalie.
Après ça, là, il y avait la troisième question de les locuteurs qui utilisent les différentes sortes de mélange des langues, soit des mots tout seuls, isolés de l'anglais qu'ils vont intégrer au français, ou quand ils vont faire des code switch où ils font juste passer à l'anglais pour un peu plus longtemps qu'un mot. Puis, on a vu qu'il y avait vraiment des différences marquées entre les deux, la façon de traiter les mots dans les deux sortes de mélange de langues. Ça fait qu'on a vu que les locuteurs eux-mêmes font la différence entre ce que nous autres, on appelle les emprunts, les mots isolés, et puis les code switch, les alternances de code, où ils vont vraiment carrément passer d'une langue à l'autre. Je pense que certaines personnes diraient que n'importe quelle utilisation de l'anglais en français pose un danger quelconque. Mais c'est ça, c'est qu'il faut voir qu'il y a différentes façons d'intégrer, justement, différentes façons de puiser à l'anglais. Puis, ils ne sont pas toutes exactement identiques, puis ils n'ont pas les mêmes conséquences, si on veut. Par exemple, si on fait une alternance de code, un code switch, on commence la phrase en français, après ça, on switch à l'anglais, on passe d'une grammaire à l'autre, bien, la grammaire du français reste intacte, la grammaire de l'anglais reste intacte. Est-ce qu'il y a vraiment un danger? Je veux dire, la personne est bilingue, elle connaît les deux grammaires, elle passe d'une grammaire à l'autre. Est-ce que c'est un risque? T'sais, je ne sais pas, je ne vois pas vraiment en quoi ça pourrait vraiment être un risque. En plus, les recherches de Chanel ont démontré que les gens vont passer d'une langue à l'autre, pas n'importe où dans la phrase. C'est un peu surprenant, mais ils vont seulement choisir les endroits là où les deux grammaires ont le même ordre entre les éléments. Donc, ils trouvent des façons de changer de langue qui vont nuire, pas nuire, mais qui ne vont pas enfreigner à ni l'une ni l'autre des langues en présence. Ce qui est vraiment remarquable, puis en fait, ça, c'est un autre résultat surprenant, c'est que c'est seulement les locuteurs les plus bilingues qui sont même capables de faire ça. Ceux qui sont moins bilingues, ils vont changer de langue entre les phrases.
Suzanne, il y a beaucoup, beaucoup de choses dans ce que vient de nous dire Nathalie, et j'aimerais ça t'entendre là-dessus. Est-ce que c'est vraiment comme ça que ça se passe dans la tête? On choisit les endroits où on change de langue de façon plus ou moins consciente, et plus on est bilingue, plus on a tendance à faire ça? Est-ce que je comprends bien?
Presque. C'est presque là. Fait que la seule chose que je modifierais dans ce que tu viens de dire, c'est que c'est pas conscient. C'est que les bilingues ont tellement une capacité linguistique excellente dans leurs deux langues qu'ils sont capables de repérer les points de juxtaposition syntaxique, les points de la phrase où le français et l'anglais ont la même structure et donc ils sont capables d'utiliser ce point-là comme pivot point pour changer à l'anglais. Et c'est complètement par-dessous le niveau de la conscience. Je veux dire, c'est pas quelque chose auquel on réfléchit. Au contraire, c'est pour ça qu'on entend tellement des plaintes de « Ah, oh, les jeunes, tu sais, ils passent à l'anglais au milieu de leurs phrases, puis ça me tanne qu'ils en choisissent une langue, une ou l'autre. On veut pas mélanger les deux. » Non, mais c'est parce que c'est pas conscient. Ils ont les deux dans la tête et ils savent de façon subconsciente où ils sont capables de switcher entre les deux pour ne pas contredire la grammaire de l'une ni de l'autre.
Hey, quand même, c'est fascinant là, qu'on soit capable de faire ça et c'est hyper intéressant. Ça fait en sorte qu'on a une espèce d'outil supplémentaire à quelque part, non?
Ben oui, tout à fait. Quoi? Deux grammaires pour le prix d'un.
Je sais, oui, je suis sûre quand même que ça fait réagir beaucoup de gens qui écoutent ça. Parce que des fois, on pourrait voir ça aussi comme quelque chose de plus facile. Quand je ne sais plus dire ce que je veux dire en français, je vais utiliser l'anglais.
Bien, certainement, on pourrait voir ça comme ça et peut-être que c'est le cas pour certains. Sans doute que oui. Mais je veux dire, on a tendance comme être humain à repérer ce qu'on trouve saillant ou à repérer ce qui nous dérange. Ouais. Hein? Fait qu'il faut aussi réfléchir au fait que même si ça peut être très saillant ou ça peut nous déranger, donc on est porté à l'observer, on est porté à « Ah, oups, ah, t'as fait ça, non, non, non. » Ça veut pas dire que c'est fréquent, de un. Tu sais, mettons le mot « café ». Ben, combien de fois dans une journée est-ce que je dis le mot café? J'en sais rien, moi. Ouais. Parce que c'est un mot complètement ordinaire qui passe complètement sous le niveau de science qu'on attribue à d'autres emprunts. Mais l'affaire avec le mot café, c'est que c'est un emprunt. Je veux dire, c'est un emprunt de l'arabe. Fait que finalement, pourquoi est-ce qu'on serait pas aussi porté à flaguer tous ces mots-là que le français aurait empruntés? Pourquoi est-ce que c'est finalement juste ceux de l'anglais? Mais c'est parce que c'est ceux-là qui nous font peur. Uh-huh. C'est ceux-là qu'on a tendance à observer.
Ouais.
Fait que ce que Nat, elle dit, c'est qu'on a beaucoup de réactions. Il y a beaucoup de discours médiatiques ou académiques ou je sais pas trop quoi dans le discours de tous les jours même. Mm-hmm. Où les gens expriment cette inquiétude mm-hmm. envers ce genre d'incorporation de l'anglais, mm-hmm. mais qu'on peut, on est capable, parfaitement capable d'aller étudier quelle proportion d'une phrase, par exemple, ou d'une heure de parole spontanée, par exemple, on peut aller chercher dans une heure de parler spontanée quelle proportion des mots proviennent de l'anglais. Et puis, c'est exactement le travail que Nat, elle a fait avec ben oui. Shana Poplack. Elle a dit les recherches de Shana, c'est les recherches de Shana Poplack, chaire de recherche du Canada en sociolinguistique, et Nathalie Dion, qui est la coordonnatrice de la recherche au laboratoire de sociolinguistique. Fait que ces deux-là, là, hey, ils sont allés voir dans la langue.
C'est ce que j'allais dire. On, fait
recueillir...
on est dans la science, là, évidemment. Ah
oh, oui. Oui, oui. Oui. Sont, ben, ils se sont dit, ben, Nathalie de Timmins, et puis elle, elle a quand même subi un certain montant de jugement linguistique au cours de sa vie, comme tous les francophones en contexte minoritaire. Mm-hmm. Shana, pour sa part, elle a appris le français à l'âge adulte quand elle a étudié à Paris. Elle parle donc un français très, très poli, très, très lisse, mettons. Mais Shana aussi, elle a quand même reçu beaucoup de commentaires sur sa façon de parler. Fait que ces deux-là, ils se sont dit, ben là, comment ça se fait que le monde sont si inquiète? Écoute, c'est quelque chose qu'on peut aller étudier. Let's do it! Fait qu'ils sont allés le faire et puis ont découvert une chose super surprenante. Et c'est que dans le corpus de comme 1,5 million de mots, là, c'est énorme leur corpus. C'est comme 300 locuteurs. C'est huge! Huge, les données qu'ils ont dans le laboratoire uh-huh. sociolinguistique à exploiter. Ils ont trouvé que le pourcentage de l'anglais que les gens utilisent est moins d'1% de la matière lexicale. Oui, j'invite à tous d'aller faire leur propre recherche là-dessus parce que faut pas juste prendre ma parole à face value. Si je peux choisir un point syntaxique pour changer en anglais. Allez chercher dans les études à Shana, ça va vous surprendre, ces trouvailles. Tout est bien démontré de façon empirique. Tu sais, comme tous les articles scientifiques, on élabore beaucoup sur la méthode qu'on a choisie pour en arriver à nos conclusions. Fait que c'est quelque chose qu'on peut évaluer nous-mêmes avec notre propre pensée critique. Hein? Faut pas juste prendre ça comme pour acquis, parce que je le dis.
Oui.
Mais ça m'a surpris, moi, en tant que locutrice, francophone minoritaire, comme « Wow, OK! » Peut-être qu'en Colombie-Britannique, le taux est plus haut. Je veux dire, elle a étudié une communauté à Gatineau et à Ottawa, fait que ça se pourrait très bien que leur proportion d'anglais est très, très bas. Mais on a quand même les mêmes opinions sur les gens à Ottawa. « Oh, les Ottaviens, tu sais, ça utilise beaucoup d'anglais, nanana! » Mais elle a pu prouver avec sa démarche scientifique que ce n'est pas le cas. C'est juste qu'ils sont saillants. C'est juste qu'on les remarque.
Davantage, c'est ça. C'est comme un gros chandail rouge dans une masse de chandail noir, en fait.
Exact.
Voilà. Et on va réécouter Nathalie un tout petit peu.
Il y a plusieurs gens qui présupposent que quand les emprunts s'intègrent à une langue, ils vont se convertir à cette langue-là, c'est-à-dire qu'ils vont perdre leurs caractéristiques inhérentes de leur langue d'origine, puis ils vont se conformer à la langue réceptrice. Puis il y a plusieurs gens qui pensaient que ce processus-là était graduel et puis que ça se faisait un peu à la fois, petit à petit, qu'on commençait par garder les caractéristiques de la langue d'origine et puis qu'avec le temps, ça devenait de plus en plus comme un mot de français pour enfin devenir un mot qu'on reconnaît même plus comme étant un mot d'origine anglaise.
Alors, Suzanne, l'idée de la conversion graduelle, le fur et à mesure, là, on va finir par disparaître. On revient encore à ça, là.
Ben oui, puis je pense que ça rentre un peu dans cette optique de ce que les gens pensent de la langue, c'est pas ce qui se passe.
Oui, oui.
C'est pas comme quand on a beaucoup on fait des assumptions, on a des idées reçues sur comment la langue fonctionne, mais c'est très, très différent du fonctionnement réel de la langue. Et donc ça aussi, ça revient à l'idée que Eric a emmenée. la prescription versus la description. Sans l'approche descriptive, on n'aurait pas su hein, qu'il existait tellement de différences entre l'opinion que les gens ont sur la langue et comment elle fonctionne réellement. Mm-hmm. Fait que pour l'anglicisme lexical ou l'emprunt lexical, pour utiliser le terme scientifique linguistique, l'emprunt lexical, les gens croyaient, par exemple, que ça commençait par un usage occasionnel, que les gens l'utilisaient à l'occasion, ici et là, et puis graduellement que ça diffusait dans une communauté pour devenir un mot intégré. Mais en fait, ce qu'ils ont découvert en faisant une étude, ils ont recueilli des données de locuteurs nés dans les années 1890 qui ont été enregistrés dans les années 50, 40-50, et puis ils ont pris ces locuteurs-là comme exempliers d'un français antérieur, d'un français plus vieux que le français qu'on parle aujourd'hui. Fait que pour faire la comparaison, est-ce que les mots que ces gens-là utilisaient hein, à l'époque,
ouais.
est-ce que ces mots-là d'anglais ont persévéré au fil des années, persévéré jusqu'aux années 80, quand ils ont fait une deuxième étude, ils ont recueilli une deuxième set de données, ou bien, est-ce qu'on voit que ces anglicismes-là sont éphémères, disparaissent? Uh-huh. Est-ce qu'ils sont devenus des mots légitimés de français ou est-ce qu'ils sont disparus? Et guess what? La vaste, vaste, vaste majorité, ce sont des usages entièrement éphémères.
C'est ça qui part, qui disparaissent.
Utilisés une ou deux fois et puis plus jamais.
Ouais.
Ben, dans les données qu'ils ont.
Ouais.
Mais ça indique pour nous que c'est vraiment peut-être pas comme ça qu'un anglicisme devient intégré dans la langue française.
On revient toujours au concept de la peur, c'est pas la raison, hein, c'est ça? Et la peur, c'est pas toujours raisonnable, on n'a pas toujours les bons outils aussi pour la comprendre, cette peur-là. On va encore expliquer Nathalie qui va nous parler d'un exemple, justement, dans une phrase qu'on a tous déjà entendue.
L'exemple de le gars que je sors avec, c'est l'exemple parfait que tout le monde va invoquer quand on parle de contact des langues puis d'influence d'une grammaire sur l'autre. Et puis, je pense que ce qui arrive là, c'est que parce que nos recherches, justement, qui ont essayé de tester l'influence des langues les unes sur les autres au point de vue de leur grammaire, comme ça, ont démontré qu'en fin de compte, il y a très peu d'influence qu'on peut retrouver quand on fait des analyses systématiques. Puis, la raison principale, je dirais, c'est parce que les gens ont une perception de ce que c'est que la langue réceptrice. Alors, eux autres se disent, les grammairiens disent qu'on ne peut pas dire « la fille que je sors avec ». Ça veut dire que si quelqu'un le dit, c'est parce que c'est venu de quelque part, probablement de l'anglais, parce que ça n'existe pas en français. Mais juste parce que ce n'est pas dans une grammaire, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas et puis que ça n'a pas existé depuis longtemps.
Ça, c'est intéressant, Suzanne. Moi, j'aimerais ça t'entendre juste sur là-dessus. Parce que c'est vrai qu'on l'entend souvent, ce fameux exemple-là, puis en fait, on ne sait pas trop d'où il vient. C'est ça?
Oui, bien, il vient, comme l'étude de Shana, Nat et Lauren Zenz a démontré, il vient d'une structure utilisée depuis des siècles en français
ben, c'est
courant.
Ça. Voilà. Je ne me trompe pas quand je dis qu'on l'entend souvent, cet exemple-là.
Ben, ça, je
comme étant
sais
quelque
pas,
chose de.
Hein?
Ben, moi, je l'ai souvent entendu. Là.
Mais c'est peut-être juste, hein? C'est peut-être juste que c'est saillant. C'est peut-être juste parce qu'on s'en aperçoit, mais ça ne veut pas dire que c'est souvent utilisé.
Mais non, mais moi, ce que je veux dire, c'est que je l'entends souvent comme un mauvais exemple. Tu sais, quand on veut citer un mauvais exemple, ça, c'est un mauvais exemple. Dis pas ça, parce que tu vois, tu viens de dire ça, dis pas ça.
Pas ça, tu penses en anglais.
Voilà, exactement.
Ah, tu penses en anglais, c'est une phrase calquée de l'anglais, donc ça endommage le français. Là, c'est rendu plus du français.
C'est ça, exactement.
C'est plus du français.
Voilà.
Mais en effet, c'est pas le cas. Hein? Comme l'étude a démontré, c'est que on a cette structure qui existe déjà en français, une structure très semblable, comme c'est moi qui veux payer pour.
Oui.
Payer pour, c'était légitimé, même dans les grammaires de français. Donc, pour l'étude qu'ils ont faite, c'était comme, est-ce que ça se pourrait que la fille que je sors avec, c'est une extension à un nouveau contexte de cette structure originale provenant du français, et puis c'est ce qu'ils ont trouvé. Ils ont trouvé que oui, dans le fond, c'est juste une extension vers un nouveau contexte d'usage. Et ce genre de phénomène, c'est constant. C'est dans toutes les langues, c'est même en français. malgré ce que les grammaires essayent de nous dire, cette extension contextuelle, c'est quelque chose qui arrive à toutes les langues et tout le temps. Par exemple, jadis, la règle grammaticale, c'était que le conditionnel, le mode conditionnel allait bien avec « si ». Fait que là, de nos jours, on dit « si ». Comme, donne-moi un exemple, Marie. Si je voulais, je le ferais.
Au lieu de « si je voudrais ».
C'est ça. Mais là, anciennement, « si je voudrais », c'était privilégié comme la bonne structure, parce que selon les grammairiens à l'époque, ça faisait, c'était logique.
Donc, la fameuse phrase qu'on s'est tous fait dire par nos parents, les si vont pas avec les raies.
Oui,
c'est ça.
Oui, fait que c'est ça. Fait que jadis, c'était l'inverse. Donc, pas pour vous démontrer à quel point que la grammaire est terrible et puis on devrait l'ignorer. C'est juste qu'elle change en fonction de comment les gens communiquent. Au cours des années, ça l'a changé. Et puis là, on ronchonne sur ça. Faut absolument pas utiliser l'ici et les raies ensemble. Fait que là, les grammairiens d'aujourd'hui, ils seraient en désaccord avec les grammairiens d'autrefois. Et donc, la structure qu'on voit avec les prépositions, la fille que je sors avec, c'est juste une extension d'une structure française originale. Ben, c'est un phénomène de changement linguistique qui est normal dans le fond. Si la langue, elle changerait pas, si la langue, elle changerait pas, elle mourrait. La langue, elle disparaîtrait si elle changeait pas.
Mais en même temps, on est très, très ancré dans ces idées-là. Oui. C'est dire qu'on a l'impression que la grammaire, elle évolue plus non plus, là, si on est pris là-dedans, non?
Ben c'est ça. Je pense que c'est pas comme mon champ d'étude spécifique, c'est pas pourquoi est-ce que les francophones ont ces opinions-là. Mais selon moi, tu sais, c'est la situation dans laquelle on se trouve, où on a l'impression qu'il faut protéger notre langue.
Ouais.
Mais là, finalement, le français, c'est pas fragile, c'est pas délicat. Hein. Ouais. C'est une langue comme les autres, robuste si on l'utilise. Et donc, il faut juste encourager les gens à l'utiliser. C'est pour ça que ce genre de correction, et les gens qui tiennent vraiment fortement à ces idées-là, à ces idées reçues que ça va endommager le français. Finalement, pour moi, c'est eux qui endommagent le français en essayant de la garder uniforme, parfaite, selon un standard arbitraire qui a été établi il y a 400 ans.
Moi, j'aime assez ça entendre ça, Suzanne, là, mais je pense que ça va beaucoup réagir, beaucoup de monde. On continue avec Nathalie encore une fois.
Ce qui est intéressant, c'est qu'on va commencer par dire « Ah, les anglicismes ne sont pas dangereux à la structure du français. » Et puis là, la réaction qu'on reçoit la plupart du temps, c'est « Ben voyons donc, qu'est-ce que tu dis là? Ça se peut pas. » Ma voisine utilise toujours des mots anglais ou moi, je corrige les tests de mes étudiants, c'est bourré de fautes d'anglais, tout ça. Là, on leur explique un peu nos résultats. Puis là, des fois, ça arrive, ceux qui vont finir par nous croire, ils vont dire « Ah oui, OK, je comprends ce que tu dis, peut-être que c'est vrai, mais qu'est-ce que tu dirais de la grammaire? C'est la grammaire qui est affectée. Il y a un anglicisme syntaxique. Il faut toujours aller un peu plus loin. Il doit avoir une autre démonstration de l'influence de l'anglais. Ça se peut pas qu'il y en a pas. Et puis, je trouve que quand les gens commencent à accepter un peu ce qu'on essaie d'expliquer, il y a toujours un « Ah, OK, mais », puis ça poursuit sous un autre aspect.
Donc, c'est bien difficile, Suzanne, de faire comprendre ça aux gens. Et c'est difficile de les convaincre. Et ça, c'est une bataille en soi.
C'est une bataille en soi. Et puis, on a eu l'occasion... Shana, elle a écrit un livre. Et puis, son livre portait sur les phénomènes de l'emprunt, lexical, syntaxique, whatever. Ça s'appelle « Borrowing », le livre, fait que l'emprunt.
Ah oui, ben oui.
Et puis... elle a ensuite fait une conférence de presse via l'Université d'Ottawa pour comme, tu sais, célébrer un peu son accomplissement, le livre, etc. Et puis, une des trouvailles, c'est cette conclusion que finalement, l'emprunt n'endommage pas la langue. Et elle a étudié, c'est pas juste le français et l'anglais, je veux dire, ça fait une grosse partie de sa recherche parce qu'elle est basée à Ottawa. Mais je veux dire, elle a étudié comme 12 paires de langues.
Oui, c'est pas c'est juste ça. Il y en a d'autres des langues hein, où ça arrive, ça.
Oh my God!
Ben ouais.
Tellement, partout au monde. Sa conclusion que ça n'endommage pas la langue qui est en train d'emprunter, oh my God, ça a fait des vagues. Fait que là, du coup, on a réalisé à quel point les gens avalaient mal ce qu'elle disait.
Ouais. Ouais.
Elle a paru dans des articles, elle a fait des entrevues à la radio, à la télé même, où elle s'est comme défendue, genre, guys, c'est de la science, je veux dire, c'est... Il faut respecter ce que les données nous disent. Je sais que ça peut être surprenant pour certains, mais c'est la réalité scientifique de notre situation.
Ben c'est ça. Et c'est comme on est en pandémie. Hein. C'est comme si on disait que la COVID n'existe pas. Ça revient à ça. On a des preuves, là, des vraies preuves, et on peut les observer, ces preuves-là, au quotidien.
On peut les observer. Ouais. Et c'est comme Nat, elle a dit, même si on peut les observer, on cherche quand même à confirmer ce qu'on pense déjà. Et c'est normal. Je veux dire, on est fait pour ça, les humains. On a des biais pour une raison. Je veux dire, ça a une raison sociale ou, je ne sais pas, vis-à-vis à l'évolution humaine, je ne sais pas trop. Ce n'est pas mon champ d'étude. Mais ce qu'il faut essayer d'avaler, c'est cette idée qu'au moins, on n'a pas à s'inquiéter pour ça. Et que pour des gens en contexte minoritaire, on a eu tellement de réactions positives de gens en contexte minoritaire qui nous ont dit « Thank God, merci! » Parce que je me soucie. À chaque fois que j'ouvre la bouche pour parler français, je m'inquiète. Est-ce que je suis en train de propager l'endommagement de ma langue?
Ouais.
Et donc, quand on leur dit « Guys, faites-vous-en pas, c'est fine. »
Ouais.
Il y a comme
la stigmatisation est forte, hein? Et évidemment, la peur est
tellement
là tout le temps. Mais encore une fois, on revient toujours à ça, à ce concept de peur, puis on revient toujours au fait qu'on a toujours l'impression qu'on est en train de s'enfoncer. C'est comme dire, dans mon temps, on revient à ça aussi. On a toujours l'impression que les plus jeunes que nous font, au fond, les choses différemment, mais moins bien. Puis on se rend compte au fil du temps que non. Il y a des très belles choses qui arrivent là-dedans aussi.
Oui, et puis il y a comme des publications de l'ère romaine qui disent « Ah, les jeunes... »
C'est ça, et c'est le changement qui fait
peur. Ils disent « Ah, oh, les jeunes de nos jours, ça parle
c'est
mal. »
Puis ça,
c'était comme dans l'an zéro.
Ça a toujours existé.
Ça a toujours existé, cette opinion-là.
Oui, oui. On va terminer tout ça avec Éric.
Juste un exemple pour illustrer que c'est que les langues sont constamment en évolution et que l'emprunt, c'est parfaitement normal. Beaucoup de gens ignorent le fait qu'il y a environ 60% du vocabulaire en anglais qui nous vient du français. Donc, tu sais, il y avait eu une conquête normande de l'Angleterre, je pense, au 12e siècle. Et pendant 200 ans, le français normand, c'était la langue officielle en Grande-Bretagne. Donc, tu sais, il y a eu beaucoup d'influence à ce niveau-là. Donc, c'est pour des gens qui parlent les deux langues. Si vous remarquez des similarités entre les deux langues, qu'il y a des mots qui sont soit exactement pareils ou très, très similaires, ben c'est parce qu'ils viennent de la même source.
Ah, ben voilà, ça dit tout ça, Suzanne.
Il ouais,
faut
absolument.
Toujours aller voir dans le passé ce qui se passait pour comprendre aujourd'hui où on est et vers quoi on s'en va, je pense.
Mm-hmm.
Ben ouais. Suzanne Robillard, on se dit à bientôt.
À bientôt!